Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur la radio mondiale. Et en cette fin d'après-midi, bien sûr, nous allons parler Ligue des Champions. Avec cette première vague de matchs aller des barrages et une confrontation qui a tenu ses promesses. Les Merengues se sont imposés à Manchester en dernière minute au moment où les Citizens répètent leurs erreurs. Manchester City n'est-il plus au niveau de cette compétition cette saison ? Le Real Madrid est-il si fort et déjà en huitième de finale de la Ligue des Champions ? Eh bien, nous nous poserons ces questions. Le PSG toujours plus fort que Brest. Hier soir, sur la scène européenne, les Pirates n'ont pas pu renverser le leader du championnat de France. La logique s'est imposée. Mais quelle est la force réelle de ces Parisiens ? Ils ont une arme fatale, certes, ces temps-ci, c'est Ousmane Dembélé, bien sûr. Serhou Guirassy, meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Il a participé à la victoire des jaunes et noirs du BVB au Sporting, alors que la Juventus s'imposait de justesse face au PSV Eindhoven. Et nos invités du jour vont se faire un plaisir d'évoquer tous ces sujets. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci, vous avez passé une bonne soirée ?
Très bonne soirée avec un match où j'ai pris du pop-corn pour le regarder. C'était City Real, mais je pense qu'on va en parler ensemble.
Ben oui, c'est au programme, vous avez entendu. Ouais. Bonjour Dominique, c'est vrai que vous arrivez de Bretagne.
Du Roux, de Saint-Brieuc, de Guingamp, de cette belle
contrée. Vous avez pris la pluie ?
Non, ça allait, il faisait très beau, Annie.
Alors.
Même Paris avait réussi à se plaindre du terrain avant le match, et même le terrain était bien.
Était bien, bon, voilà, donc, ça va.
Belle région.
Tout à fait.
Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Cette émission a été préparée avec l'aide de Pierre Guérin et David Finzel. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
C'est Valio dans la surface. Mbappé, la frappe de Mbappé et l'égalisation du Real Madrid.
Haaland gives it in the lead.
Doublé pour Erling Haaland et Manchester City reprend l'avantage.
Ojo Vini qui récupère la pelota, Vini pour le tercero, remata, no va dentro. Ahí está Bellingham,
c'est le Real qui va s'imposer à l'Etihad Stadium. Oui, ils peuvent à nouveau bomber le torse.
Con feu, con tesón, con pasión, con huevo, Garrido Bellingham.
À la fin du premier acte, c'est le Real Madrid qui s'impose ici même face à l'un de ses pires ennemis.
Ils ont apprécié, hein, nos confrères espagnols, on dirait qu'ils s'y voient déjà en huitième de finale, nos confrères madridistes. En tout cas, il faut dire qu'hier, dans ce barrage qui aurait pu être une finale, hein, les Merengues, tenants du titre européen, se sont imposés sur le fil, comme vous l'avez entendu. Un dernier but de Bellingham qui signait donc cette victoire 3-2 dans les arrêts de jeu. Pourtant, ce n'était pas écrit d'avance, car les Citizens ont mené au score après un doublé de leur numéro 9 vedette, Erling Haaland. Et comme dans de nombreux matchs ces derniers temps, Manchester City s'est écroulé en fin de match, encaissant deux buts après la 80e minute du déjà-vu avec ses Citizens. Pourquoi cette faillite en fin de match ? L'emblématique Pep Guardiola plaide coupable.
On a été une incroyable machine à gagner tous les trois jours, mais cette saison, ça ne marche plus comme par le passé. Je suis le premier responsable, évidemment, parce que je suis là depuis plusieurs années, mais il y a aussi les joueurs. La vérité, c'est qu'en ce moment, on est trop fragile. Il faut continuer à apprendre et essayer de retrouver de la fraîcheur mentale, de la fraîcheur physique et redevenir compétitif.
Et les stats cette saison sont implacables puisque les Citizens ont mené 5 fois dans des matchs, à 5 reprises donc, et ils se sont inclinés à chaque fois, donc ces 5 fois où ils ont mené, et c'est autant de fois que les 4 saisons passées. Alors, Chérif Guémour, vous qui avez devant vous d'ailleurs un magazine de SoFoot avec la tête de Pep Guardiola, où on se demande ce qu'il y a
la
dans sa tête.
La malédiction de SoFoot. À chaque fois qu'on met quelqu'un en une, en général, il
ça se passe mal.
Ah, ouais.
C'est qui le mois prochain ?
La Brune, apparemment. Vincent La Brune, le président de la Ligue.
C'est le Thomas, donc le mois prochain, c'est encore Guardiola.
Ah,
tu
oui.
te rends compte ? La pire période de sa carrière.
Et... Oui, mais ça fait plusieurs mois que ça dure. Hein, donc,
oui, oui.
Bon. Ouais, ouais.
Chérif, racontez-nous, selon vous, il dit « on a été une incroyable machine à gagner ». Et c'est vrai que là, ça se répète, on pense au match de Brentford de l'autre fois, le match spectaculaire contre le Paris Saint-Germain, là maintenant contre le Real. Qu'est-ce qui se passe selon vous ? Est-ce que c'est plutôt un problème physique ou psychologique ? Et l'autre fois, on se souvient des visages défaits hein, de ces joueurs dès qu'il y a des égalisations, dès que...
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, c'est une équipe qui est en fin de cycle, à l'image de Kevin De Bruyne, qui avance plus. Pour moi, on l'a perdu. Il ne reviendra plus jamais au niveau qu'on a connu. J'en suis persuadé. Je veux dire, au très très haut niveau international, ça restera un bon joueur de championnat. Mais là,
il va jouer à Anderlecht.
Au PSG.
Non, mais là, il se traîne, alors que c'était l'élément principal. Il y a évidemment l'absence de Rodri, qui était le métronome de cette équipe. Mais on va arrêter quand même de sortir la carte Rodri,
parce que moi,
je pense que après la victoire en Ligue des Champions en 2022, ouais c'est ça, 2023, enfin bon, peu importe, ils étaient arrivés, Manchester City était arrivé au top de leurs ambitions. Ensuite, il y a la gestion, en effet, là, sur le physique, il y a la gestion de Guardiola. Vous pouvez vérifier tous les dernières saisons.
Vous avez toujours joué les mêmes.
C'est toujours les mêmes qui jouent et il y a un deuxième changement, maximum. Donc,
alors qu'il a droit à 5.
Il a droit à 5, alors c'est étonnant.
Alors qu'il s'en plaignait lui-même du fait qu'il fallait passer aux 5 changements et quand c'est passé, il ne les avait quasiment pas utilisés.
Et ouais, donc, comment ça s'appelle ? Il a fini par user. Et puis.
Il a usé mentalement aussi, ces joueurs ?
Oui, mentalement, oui. Bah, on l'oublie, mais il y a des joueurs qui craquent ou qui partent. Je veux dire.
Walker ?
Je sais pas, prenez Grealish, qui était un.
Des joueurs à lui.
Voilà. Il y a des joueurs qu'on croit. C'est le drame avec Guardiola, c'est qu'il y a pas mal de joueurs de Manchester City, c'est ça la méthode Guardiola, c'est un peu je prends, je jette, qui se croient à un moment installés. Je pense à des joueurs comme John Stones, qui avait commencé à trouver sa place devant la défense et tout, parfait, à côté de Rodri ou alors en défense centrale. Enfin, il joue Ake, qui était relativement titulaire. Grealish, qui c'était le préposé à l'aile gauche. Et tout d'un coup,
Phil Foden, qui était longtemps
Phil Foden, ça c'est l'histoire du foot, Chérif, de mettre de la concurrence, de rendre les joueurs
et de changer de poste. Là, en l'occurrence,
mais à partir du moment,
Dominique s'est changé de poste là.
À partir du moment où ni Doku sur le côté gauche, ni Grealish savent s'ils sont vraiment titulaires ou remplaçants.
Mais ça, c'est l'histoire de Guardiola. Je veux dire, te mettre en insécurité. Moi, je peux bien passer pour en parler. J'en ai déjà parlé avec Mahrez, qui pouvait faire deux super matchs et se retrouver sur le banc. Trois fois de suite sans comprendre pourquoi.
Qui n'est pas entré en finale.
Alors, c'est vrai que ça peut doucher l'enthousiasme de certains joueurs. Moi, je vois une équipe bouillie, une équipe finie avec des cas individuels, des joueurs qui sont arrivés au bout d'une histoire. Tu as parlé de Bruyne, Bernardo Silva également, on peut aussi citer. Gundogan qui fait un aller-retour. Le noyau dur, il est parti ou il est en fin de cycle. Walker, qu'on n'a pas cité, très important dans la séquence.
Même s'il était un peu plus lent.
Parti. Mahrez, il est parti. Sterling, il est parti.
Ederson.
Gabriel Jesus, il est parti. Alors, c'est l'histoire du foot et Dominique a raison. Mais ensuite, il faut savoir les remplacer intelligemment. Mais le mercato.
Mais ils y arrivaient toujours.
Mais là, non, moins bien. Ils ont été moins bons sur le mercato. Les joueurs qu'ils ont pris, c'est pas du niveau de ceux qui sont partis. Et ils ont fait une erreur monumentale. Et je tiens à le dire ici. Je te lâcherai la balle, Dominique. C'est Palmer. Cole Palmer. Parce que moi, quand Mahrez était à.
Qui est maintenant à Chelsea.
Voilà. Quand Mahrez était à City, c'était Palmer qui devait le remplacer. Il y avait Foden également qui pouvait jouer à ce poste-là, mais c'était Palmer. Et Palmer, il lui restait un an de contrat, et comme ils ont été incapables de lui dire qu'ils allaient lui garantir un minimum de temps de jeu, le garçon a de la personnalité, à Chelsea, ils lui ont dit « Tu viens, t'es au centre du projet. » Alors, il lui demandait pas d'être au centre du projet du côté de City, mais d'avoir un minimum de temps de jeu. Et ça aussi, ça contribue, alors en plus du cas de Guardiola dont vous allez parler, mais ça a fortement contribué à fragiliser ce collectif. Et qui explique en partie cet effondrement. C'est pas une baisse de régime, c'est un effondrement.
Mais ouais, oui, parce que là, ça se répète match après match.
Ouais, mais moi,
Dominique, je t'écoute.
J'ai pas envie de m'en prendre à Pep Guardiola, parce que pour moi, c'est une réussite fantastique. Il est là depuis 2016.
Non, mais on est là pour juger les résultats de cette saison.
Oui, mais là, je veux pas que ça efface.
Je remets pas en cause son œuvre.
Je dis pas que vous avez dit ça, mais je veux pas que ça remette en cause tout ce qu'il a fait. Que voilà, ça fait neuf ans qu'il est là. Il y a une usure mentale, parce que les chiffres que vous avez donnés, Annie, ça témoigne que d'une chose, c'est qu'il y a un effondrement mental. En fait, on pourra en parler tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain. Quand vous avez la confiance, vous pouvez faire les mêmes matchs qu'il y a 6 mois, mais sauf qu'il se termine différemment parce que vous êtes en confiance. Un buteur est en confiance, un joueur est en confiance. Là, ils sont plus du tout en confiance.
Oui, mais regardez, combien de temps ça va prendre ? Regardez, Dominique, par exemple, le Real Madrid, on va en parler aussi, mais le Real, on peut pas dire qu'il soit en confiance, mais on voit qu'il n'y a pas de résignation pendant la rencontre. Ouais, mais je ne parle pas que de celle-là. Oui, mais... Alors que là,
ils ont perdu leur...
Non, mais je pense à Manchester City face au Paris Saint-Germain l'autre jour. Oui. Quand le Paris Saint-Germain leur marque 4 buts en une mi-temps, on voit la tête des joueurs, qu'ils n'y sont plus. Et ils ne réagissent pas.
Bien sûr. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais le Real Madrid, c'est la résilience incarnée. Il peut lui arriver tout ce qui peut lui arriver. Il est toujours en train de rebondir. Tout le temps, hier il a gagné.
Parce qu'il y a du talent.
Non, parce que c'est une culture club, en fait. Le Real Madrid ne s'effondre jamais. Et puis vous dites, il va pas si bien que ça. Il est quand même en tête de la Liga. Il y a quand même de bonnes équipes en Liga. Il y a quand même l'Atlético de Madrid. Il y a quand même Barcelone. Il y a deux, trois bonnes équipes.
On va dire que leur niveau de jeu, il est moins bon.
C'est pas un championnat sous-coté. Donc voilà. Ce qui arrive à Manchester City.
Mais match après match.
Je l'avais pas prévu, mais c'est assez logique, en fait.
C'était un peu prévisible, malheureusement.
Non, je pensais pas que ça arriverait comme ça. Je pensais pas quand ils mènent au parc.
On parle du quatrième.
Vous souvenez du match face à Eindhoven?
Oui, mais c'est pas.
C'était sidérant.
Ils 3-0.
C'est tous les week-ends qu'ils se font ramasser.
Mais c'est pas. Je pensais pas que
tout le monde. Et
pas
tout le monde.
2-0 au parc. Je pensais pas qu'ils allaient perdre. Hier, quand ils mènent 2-1, je pensais pas qu'ils allaient perdre. Je le vois pas venir, mais là, ils sont dans une séquence terrible.
Attention, on parle du quatrième de première ligue. Et c'est pas. On parle d'écroulement, d'effondrement. C'est pas Manchester United non plus. Manchester United, eux, c'est un effondrement. Là, ils sont quatrième du championnat.
Ils sont au bord d'élimination quand même en Ligue des Champions.
Ils ont des petites réactions, mais ils mettent 6-0 à Ipswich qui est avant
dernier. Ligue des Champions,
là, hier soir, on avait le vainqueur 2023 contre le vainqueur 2024. Hein.
En Ligue des Champions.
Il y a 2 ans, il l'a gagné.
Mais non, mais c'est quand même spectaculaire ce qui se passe.
En Ligue des Champions, en général, quand tu tombes contre le Real, c'est vraiment l'affiche.
C'est psychologique.
Manchester City contre le Real, le Madrid. Manchester City, ils ont pratiquement aucune chance. Déjà tombé contre le Real en Ligue des Champions, dans les matchs couperets, c'est pas évident. Mais
Alors, les Citizens sont-ils mal partis? On verra. En tout cas, la confrontation, elle était quand même un peu bizarre parce que ce match, nous, quand on préparait l'émission, c'est ce qu'on disait. Le Real, finalement, a raté beaucoup d'occasions.
Au début du match, surtout.
Ouais, sur les temps forts. Alors, on voit que certaines équipes, après, ça ne marche pas, et notamment Brest, que ce soit en première, en championnat ou même hier soir. Sa défense reste fragile. Mais pour Danis et Bajos, on va l'écouter, le Real est en train de trouver une solution à ses limites, à celle qu'on a vue en tout cas.
Nous avons appris de nos matchs précédents et nous avons enfin trouvé la clé pour faire mal aux grandes équipes. L'autre jour, contre l'Atlético de Madrid, nous avions déjà montré un bon visage en seconde période et méritions un meilleur résultat. Aujourd'hui, nous gagnons 3-2 et je pense que notre victoire est bien méritée. La clé, c'est de rester solidaire, bien regroupé et de tout donner sur le terrain. À partir de là, les choses viennent naturellement, car nous avons des joueurs de grande qualité capables de faire la différence à tout moment.
Alors cette différence, hein, c'est Vinicius et Bellingham qui la font à la fin, effectivement, qui marquent ce troisième but. Mais est-ce que selon vous, ils l'ont trouvé, cette solution à leur problème? Lui, il parle d'avoir trouvé la clé.
Non, parce que hier, c'est une ambulance, en fait. Il faut relativiser, c'est pas le Manchester City qu'on a connu ces dernières saisons. Sur le papier, évidemment, il y a de la qualité. Sur des séquences,
ils sont menés 2-1.
Il y a de la qualité, mais il n'y a pas besoin d'un énorme Real, en fait, tout simplement. Ce Real-là, face à une équipe plus cohérente, mieux organisée, avec plus d'intensité, ce match-là, ils ne le gagnent pas. Là, ils gagnent sur le talent de leurs individualités.
Mais ils souffrent en Liga, de toute façon.
Hein, leur schéma tactique à 4 attaquants, ça ne passera pas contre des équipes plus fortes que ce Manchester City-là.
Surtout avec Valverde en latéral droit.
En fait, ils bricolent à haute altitude Ancelotti, ce qui est un talent, hein, évidemment.
Ouais. Mais parce qu'il n'a pas le choix en ce moment, c'est ça, rappelons-le.
Il a souvent pas le choix depuis
totalement décimé.
Mais il a souvent pas le choix depuis qu'il est arrivé.
C'est pas son poste, c'est pas un défenseur.
Après, la bonne nouvelle, c'est qu'Mbappé, ça va mieux, quand même. Bon, on allait en parler, mais...
Vinicius, homme du match.
Voilà, Vinicius qui se fait un peu tenser par les supporters de City qui répondent sur le terrain assez intelligemment. Bellingham également. Moi, j'ai bien aimé. Valverde, c'est quand même Guardiola, je pense qu'il le prend tous les jours, hein, parce que entre le dépassement de fonction et la polyvalence, c'est vrai que c'est un joueur fantastique.
C'est un Uruguayen. Mais
quel que soit le vainqueur de ce barrage, il sera pas injouable au tour suivant. Si chacun ne se renforce pas, mercato est terminé. Mais
il faut qu'il chacun ne change
vous
pas
les trouvez
quelque
pas
chose.
Convaincants les Madrilènes.
Non. Mais après, je sais qu'aussi Madrid, quand ils rentrent dans les matchs à élimination directe, c'est plus le même Madrid. Sais que quand ils vont arriver en huitième de finale, parce que pour moi, ils ont un but d'avance, ils aiment le contre, ils vont laisser City, ils vont les aspirer, ils vont les contrer avec la vitesse de Mbappé, de Bellingham, de Vinicius. Je pense que
Rodrigo
aussi.
Je pense que le match retour est
un peu plié malheureusement pour City. Je pense que
sauf
partout,
un scénario
à partout 2-1, le Real Madrid passera. Et donc, le Real a intérêt à changer à partir des huitièmes, parce que si c'est ce Real là depuis le début de saison, avec, comme l'a dit Nabil, les 4 joueurs offensifs, je pense qu'ils vont se faire exploser contre une bonne équipe.
Dominique, on dit ça, mais ils sont toujours premiers de la Liga, même si maintenant il n'y a plus beaucoup d'écart avec leurs poursuivants. Ouais. Et puis ils sont là en 8e de finale.
Une fragilité et en barrage. C'est le truc qui manque un effectif, il manque de remplaçants.
Alors il faut qu'ils tombent sur des équipes
moyennes. L'image mitigée qu'on a du Real, c'est pas par rapport à ce qu'on a vu hier soir. Hier soir, c'était suffisant. Je veux dire, il suffisait d'une pichenette avec ce Manchester City. C'est tout simplement ce qu'on voit en Liga. En Liga, il y a des moments, mais c'est des temps faibles, mais des temps faibles qui durent très longtemps. Ça peut être contre l'avant-dernier du championnat. Enfin, moi, je regarde pas mal de matchs du Real. Par moment, c'est des vrais trous d'air. Il y a encore Courtois, ce qui reste le meilleur gardien de but du monde. Je sais pas comment ils vont toujours bricoler, parce qu'il y a des joueurs derrière qui seront pas là d'ici la fin de la saison.
Est-ce rassurant, on annonce Rodiger de retour.
Oui, ça c'est une grande nouvelle.
Mais il sera pas à 100% à la barre, il est revenu, il s'est reblessé.
On va pas
le récupérer.
Je parle pas de Carvajal, je parle de Rodiger là.
Ah oui, non, mais là
Rodiger, ça fera quoi, 2 matchs?
Non, mais vous avez vu les noms des absents, Annie? Alaba, Rodiger, Militao. C'est une défense type.
Et Carvajal.
C'est la défense type.
Donc ils vont continuer.
Ils sont encore là.
Par contre, il y a peut-être pas longtemps.
Peut-être plus longtemps qu'on ne le pense aussi.
Manchester a une petite chance, à mon avis, en faisant jouer des guerriers comme Kovacic, Guardiola, Marmouche et Rico Lewis. Les joueurs qui sont en dedans, genre les Kevin De Bruyne, les... Grealish ne sera pas là. Bernardo Silva, enfin tous ces joueurs-là qu'on a admirés. Là, il faudra des combattants.
Nabil, le match retour, n'oublions pas, et c'est très rapidement, hein, c'est mercredi prochain, c'est à Santiago Bernabéu, à Madrid. C'est vrai que ce sont deux équipes qui peuvent offrir le meilleur comme le pire et du spectacle, et surtout face à face. Malgré tout, est-ce qu'on peut imaginer que le Real Madrid ne se qualifie pas semaine prochaine? Ils n'ont qu'un but d'avance, c'est sûr.
Oui, on peut l'imaginer. C'est pas l'infiniment petit contre l'infiniment grand. Manchester City, sur un match avec un scénario favorable, je sais pas, d'efficacité sur coup de pied arrêté, de la solidarité.
Ils sont les derniers qualifiés de cette Ligue des Champions cette saison, 24e d'Europe.
Là,
hein.
C'est comme aux élections.
Non, il faut des Warriors. Hein.
C'est
je,
comme
je,
aux élections.
Je me répète,
le ballotage, il est favorable, voire très favorable pour le Real.
Ouais.
Mais si vous arrivez à vous mobiliser, à surperformer par rapport à ce que vous avez fait, vous avez réussi à faire depuis le début de saison, avec l'hécatombe que vous avez annoncé également du côté du Real, parce que ce n'est pas la défense type. Si on est sur un Manchester City qui s'est un peu... Voilà, qui maintiendra peut-être pas ce niveau-là sur toute la saison, mais qui est capable de se remobiliser. Je veux dire, moi, je ne tomberais pas des nues si on me disait, tiens, bon, Manchester City a réussi à retourner le truc.
C'est très compliqué.
Défaite à Paris, victoire compliquée contre Bruges, défaite contre le Real Madrid. On sent que le niveau européen, ils ne l'ont pas cette saison. Et là, le Real a un but d'avance. C'est une situation hyper confortable pour le Real chez eux. Moi, maximum, je leur donne un match nul à City pour s'en sortir, quoi.
Alors justement, tout à l'heure...
Des hold-up, ça existe dans le foot. Hein.
Cette banderole qui était déployée par les supporters mancuniens hier dans le stade. Il était écrit sur cette banderole « Stop crying your heart out ». Et bien justement, écoutez...
Come on, come on.
connu évidemment Oasis,
hein,
le groupe de Manchester, et qui est supporter largement de cette équipe. Alors c'est le refrain où ils disent en fait arrête de pleurer ou de faire ta pleureuse, peu importe la traduction. On voit surtout sur le dessin Rodri en train d'embrasser son ballon d'or. Rodri qui était dans les tribunes évidemment puisqu'il est blessé, mais il assiste quand même au match. Alors le message, à qui était-il dirigé, Sheriff Gamour? Est-ce qu'il était dirigé à Vinicius? Ça l'a un peu peut-être énervé, du coup il est meilleur joueur du match. Ce qui est aussi, hein, les titres de meilleur joueur, des fois ça laisse à désirer. Mais bon, oui. En tout cas, est-ce que c'était dirigé contre Vinicius qui, on le sait, hein, n'a pas gagné ce ballon d'or cette saison alors que tout le monde pensait qu'il l'aurait?
Oui, oui, comment dire... Avec Vinicius, c'est à pile ou face. Soit il se cabre, il déjoue, il énerve tout le monde et il rate son match, parce que quand on s'appelle, il est souvent la cible hostile du public. On l'a vu, on le voit régulièrement en Liga. Et là, je me posais la question, comment il va réagir.
Mais c'était vers lui, cette banderole?
Bien sûr, parce que, oui, bien sûr. Oui.
Votre magazine, SoFoot, dit le contraire dans l'article.
C'est pas Sheriff qui a écrit le papier.
Si, ils disent que c'est en fait dirigé vers Florentino Pérez, en fait.
Ah, vers Florentino Pérez.
Et vers le staff du Real, qui a refusé d'aller à la cérémonie où Rodri a été sacré.
Oui, vu sous cet angle. Oui,
Vinicius a dû le prendre pour lui aussi. Il a pas dit, ah tiens, la banderole sympa pour mon président.
C'est parti du Real, donc c'est, c'est aussi un peu...
Non, mais c'est c'est pour l'ensemble de...
Non, mais par contre...
C'était pas très sympa, en tout cas.
Ouais, ouais.
C'était un peu provoque.
Oh, c'est de l'humour. Oh, c'est rochant.
On a déjà vu des banderoles moins sympas.
British.
Ouais,
ouais, ouais.
Ta chambre, tant que c'est pas raciste, Tony, ça va, quoi.
Ouais.
Voilà. Et avec un petit arrière... petit arrière-goût musical, parce que bon, Oasis, évidemment,
oui,
le refrain.
Oui, alors évidemment.
Arrête de faire ta pleureuse, ouais.
Oui, oui, c'était très, très bien choisi.
Mais en tout cas, il ne s'est pas énervé. Il est resté maître de lui-même. Il a fait un très bon match.
Ils peuvent écouter Oasis. Leur équipe, c'est devenu un mirage. Hein.
C'est long.
Merci
c'est
beaucoup,
long, il y a un jeu de
Nabil.
Mots. Je ne sais pas si les gens l'ont, il y a un jeu de mots.
Le sujet est clos.
Traverse le désert, quoi, en gros. Là.
Bah, oh oui.
Bon, ben bah, nous, on va pas.
Il manque le tambour.
On n'a pas de désert en France, mais on va vers la Bretagne.
On a des idées.
On va vers la Bretagne.
Ousmane Dembélé, Dembélé, 2-3 coups de rein à l'écoute fêlée. Dembélé, 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 il me suffit d'accrocher pour les faire saigner. Ousmane Dembélé,
Dembélé sur le pied gauche. Ousmane Dembélé, impitoyable. C'est la joyeuse frénésie de Dembélé. Encore un but contre Brest.
Ousmane Dembélé,
Dembélé arrive en puissance. Ousmane Dembélé. Ce PSG ne laisse aucune chance au stade brestois. 3-0 à 25 minutes de la fin, c'est encore signé Ousmane Dembélé, son appétit est sans limite.
Dominique, je vais vous prendre à témoin, mais même si l'hymne de la Ligue des Champions a bien retenti hier soir au Roudourou, vous confirmez,
hein, j'ai entendu.
À Guingamp, l'affiche de la rencontre avait quand même des airs de Ligue 1, n'est-ce pas, il y a 10 jours,
la Ligue des Champions, McDo.
Il y avait déjà un match.
Oui, ou plutôt la Ligue 1 des Champions. C'était la Ligue 1 des Champions.
Oui, bon. En tout cas, c'était le premier contre le deuxième. Mais bon, d'autant plus que les joueurs et peut-être les spectateurs avaient cette statistique, autre statistique en tête. Cela fait 40 ans que les Bretons ne battent pas les Parisiens dans le championnat de France.
Et crois pas, c'est le bac à l'époque.
Bah oui.
C'est vous dire que...
T'es pas encore sur le banc.
Ça remonte un peu, quoi.
Et nous, on passait le bac aussi, peut-être. En tout cas, la logique a été respectée hier soir avec cette victoire 3-0, c'est ce que vous diriez?
Oui, tout à fait. Après, il y a eu deux temps forts de Brest, l'un au cœur de la première période et l'autre au retour de la pause. Mais
malheureusement, il manque, et c'est ce qui manque à cette équipe.
Oui.
C'est-à-dire la...
La phrase classique, c'est si vous mettez Dembélé dans l'autre équipe, c'est pas le même résultat. Quand un gars met des buts...
C'est le même résultat.
Bah...
Paris est meilleur que Brest, même si tu mets Dembélé.
Oui. Non, mais de toute façon, Paris est meilleur que n'importe quelle équipe française en ce moment. Ça aurait été Monaco en barrage,
ça
aurait été pareil, ça aurait été Lille, même Lille que j'adore, ça aurait été pareil. En ce moment, Paris est irrésistible, au moins sur la scène française, on verra.
Donc là, on était sur la scène française d'une
certaine
façon.
Oui, malgré tout, Brest reste, c'est sa première participation de son histoire à la Ligue des Champions. Alors, moi, je veux pas qu'on enterre Pep Guardiola, et je veux pas qu'on oublie que Brest a fait un parcours génialissime,
Mais fantastique. Mais bon, pour vous, les Pirates auront du mal à passer.
Ah bah, de marquer 4 buts sans en encaisser, je sais pas, il peut y avoir 2 rouges en 5 minutes pour Paris, mais
Mais il y avait un monde d'écart.
Nabil, hein. Justement, est-ce que ça, cette statistique aussi, il l'avait dans la tête, les Brestois, malgré tout?
Oui, dans le sens où, au moment du tirage, ou du moins quand ils ont appris leur adversaire, je me souviens très bien de ce qu'avait dit les Smelou.
Ouais.
Et il disait que c'était pas
pas le Paris Saint-Germain.
Ouais, voilà, c'est surtout pas ce qu'ils souhaitaient, c'est d'autres qu'ils avaient envie. Ouais. Et je pense qu'il y avait une forme d'usure quelque part, à savoir qu'ils allaient rejouer contre cette équipe-là qui vous renchèvre. Parce que c'est vrai qu'elle a du contrôle.
Surtout qu'il y a 10 jours au stade de Brest. Hein,
5-2,
ouais. Ouais, ça avait été dur.
Il y a du contrôle, il y a de la maîtrise. Après, dans ce genre de situation, quand vous êtes l'outsider, les peu de situations que vous avez, il faut les mettre.
Exactement.
Et ils ont manqué de réussite et d'efficacité.
Il y a eu beaucoup de
si
barres,
tu changes Dembélé par Sima. Bah, peut-être que le Dembélé d'aujourd'hui, bah, il touche pas les poteaux, quoi. Mmh. Encore que Sima, franchement, sur le corner, la tête déviée, il fait ce qu'il faut. C'est juste qu'il y a un manque de réussite, elle va sur le poteau. Terminé, mais bravo.
C'est sûr que Brest aurait mérité de marquer. Voilà.
Bravo à cette équipe brestoise pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a proposé, pour cette épopée.
Vous leur dites déjà bravo. Attends,
bah, pour moi, c'est terminé.
Ouais. C'est fini.
Ah bah, c'est fini là.
Non, bah oui, mais ils joueront au Parc des Princes la semaine prochaine.
On retrouve un peu ce qui se passe en Coupe de France. Il ne faut jamais oublier qu'en Coupe de France, les petits veulent affronter les gros. C'est une équipe de CFA ne veut pas affronter une autre équipe.
Pas à Brest qui sont petits avec le parcours qu'ils ont fait.
Non, mais comment dire, c'est vrai qu'on reste dans un cadre franco-français avec une équipe qu'ils ont déjà joué deux fois en championnat.
Avec des petits moyens, ça c'est sûr.
Ouais, donc c'est pas ça fait pas rêver. Je veux dire, à la limite, reprendre la Juve, même Eindhoven, enfin genre quelque chose de différent. Ouais. Et là, on reste.
Oui, parce que quand ils avaient pris le Bayer Leverkusen, qui venait d'une incroyable saison invaincue.
Mais même quand ils ont joué contre les deux clubs autrichiens, au moins c'est dépaysant, c'est notre expérience. Et là, on les connaît tous, les joueurs.
C'est normal qu'ils ne soient pas invités. Ils ont perdu contre le Barça, ils ont perdu contre le Real, ils ont perdu contre le PSG, ils ont même perdu contre le Shakhtar Donetsk qui ne réalisait pas un parcours intéressant en Ligue des Champions, mais c'est quand même un club historique de la Ligue des Champions. Voilà, on ne peut pas leur en demander. Au bout d'un moment, ils sont dans les 16, ils sont dans les 24 qualifiés. Voilà. C'est fantastique.
Je pense que ça aurait été une autre motivation s'ils étaient tombés par exemple
Benfica,
Benfica, Celtic, un truc comme ça. Tu vois.
Alors,
ça ne veut pas dire qu'ils seraient passés.
Oui.
Mais...
Que dites-vous des bémols qu'on peut mettre à cette équipe qu'on voit assez flamboyante la semaine dernière? Alors, Nabil disait qu'hier soir, c'était une ambulance. Manchester City, ça l'était aussi au Parc il y a 10 jours ou 15 jours. Brest, bon, bah, ils sont 8e du championnat, ils ont du mal. Ils ont surtout jeté sans doute toute leur force dans la bataille auparavant. Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe impressionnante et qui va impressionner encore?
Bah, disons qu'il y a des choses qui vont mieux. On a quand même fait toute la phase régulière, la phase de championnat de la Ligue des Champions ici à Nice. On a quand même été assez juste, mais sévère avec le Paris Saint-Germain. Il y avait un problème de réalisme, il y avait un problème d'impact, il y avait des joueurs qui ne mettaient pas beaucoup dans les duels, dans l'intensité, qui n'étaient pas très présents. Aujourd'hui, un garçon comme Neves, qui est arrivé à 19 ans, il en a 20, alors ça ne veut pas dire qu'il a pris un an, mais c'est juste son adversaire qui est passé par là. Mais le joueur n'est pas le même qu'au début de saison. Ce petit garçon à 19 ans, il était un peu frêle, il était un peu impressionné par les duels. Aujourd'hui, ce n'est pas le même. On a retrouvé, semble-t-il, le Vitinha un peu de la saison dernière, celui qui avait été désigné par Lucien Riquet comme le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. On a une recrue en défense qui s'appelle Ouyane Pachot qui bon, même s'il s'est fait pas des bons matchs contre Brest parce qu'il aime pas les gros gabarits, ça va mieux. On a Ousmane Dembélé qui s'est transformé buteur. Alors c'est un peu miraculeux parce que
on va en parler de
Ousmane. Voilà, donc ça va mieux. Luis Enrique accepte le jeu en transition alors qu'avant il fallait absolument que tout arrive en un jeu placé de position. Ah bah si, il y a beaucoup plus de buts en transition depuis deux mois, Chérif, que si tu regardes bien les matchs, il y a énormément de buts sur la vitesse de Barcola, de Doué et de Dembélé.
J'ai regardé, je pense qu'on a fait des faux procès à Luis Enrique, qu'il était ceci, qu'il était cela, qu'il était psychorigide et tout.
Bah, il fallait voir les matchs en direct, dès qu'il y avait un ballon en transition, il gueulait.
Non, il a construit méthodiquement, moi je le voyais, de toute façon, moi je l'avais dit de toute façon dès le mois de septembre, moi ce que je voyais c'était une équipe qui était en train de se mettre en place. Donc il fallait d'abord, comment dirais-je, qu'ils défendent ensemble, qu'ils fassent le pressing ensemble, que chacun ait son air d'expression. Je voyais, ça c'était une première étape, et les autres étapes arriveraient. J'ai jamais prévu que Dembélé en arrive là. Alors là, on est sidéré par la progression de Dembélé. Mais pour les autres, et le fond de jeu...
Je suis d'accord avec toi. Hein, mais c'était pas le discours ambiant, c'était pas ce qu'on entendait semaine après semaine.
C'était
les gens disaient Paris
exactement.
Va pas se qualifier, Paris est nul depuis qu'Mbappé est parti, il joue pas avec un numéro 9 qui est le honte. C'est ça qu'on entendait, je dis pas toi, je dis pas Nabil, majoritairement, c'est ce que j'entendais, quelle honte de jouer sans numéro 9, que ça soit
comme un
grand. Ils ont offert aussi des prestations qui n'étaient pas.
Qui ont posé ces questions-là légitimement.
Bah oui,
mais moi j'aurais pas été
en tout cas, c'est vrai que le PSG est aussi aidé dans ce revirement, on va dire, depuis quelques mois. match là, puisqu'ils ont quand même réussi à se qualifier presque aussi difficilement que Manchester City. Et évidemment, c'est grâce à Ousmane Dembélé. Alors, on le suit depuis 10 ans, joueur, hein, depuis qu'il était à Rennes. Il avait l'art de frustrer le public. En tout cas, ici, on l'a quand même aussi souvent assaisonné. Ailier imprévisible. Hier, c'était encore un doublé. C'est 7 buts contre Brest, parce qu'il y a eu des matchs de championnat. 18 buts en 11 matchs, et c'est 15 depuis le début de l'année.
Personne
c'est-à-dire
n'a fait ça
en un mois et demi. Mm-hmm. Absolument incroyable. Est-ce qu'un nouveau Dembouz est né? Eh bien, Luis Enrique a l'air de le constater, et avec joie et avec sympathie même.
Tenez à Ousmane, non? Le podéis preguntar à elle?
Si vous voyez Ousmane, demandez-lui ce qu'il a mangé à Noël ou ce qu'il a fait. Pour ceux qui le connaissent et qui le voient à l'entraînement, en ce moment, il est en pleine confiance. Quand j'étais jeune et que je pratiquais les jeux vidéo, il y avait ce footballeur que tout le monde voulait avoir et qui sait tout faire. Ousmane est comme ça. Il était déjà bon la saison passée, il est encore meilleur en 2025. Cela fait plaisir d'avoir tant de joueurs sûrs d'eux-mêmes, de voir que ses coéquipiers le cherchent et le trouvent. Son niveau est très élevé, c'est parfait pour nous. Nous avons plusieurs options, peu importe qui joue. Mon groupe est plein de qualités, il ne reste plus qu'à suivre sur cette ligne directrice, jouer de manière solidaire, en attaque comme en défense. Voilà notre objectif.
Nabil, est-ce que le nouveau Dembouz est arrivé?
Bah, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on le retrouve sur une séquence qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps. Je crois que la fois où il s'est retrouvé à stater autant, peut-être pas dans cette proportion-là au niveau des buts, parce que ça n'a jamais été un grand buteur, c'était à Rennes et à Dortmund. Ça
remonte. Mais à Dortmund, il marquait beaucoup, on se souvient, avec Aubameyang à l'époque.
Il était aussi beaucoup dans les passes décisives, parce qu'Aubameyang était surtout là, lui, pour terminer le travail. À Rennes, il était utilisé de la même manière qu'il est utilisé aujourd'hui au Paris Saint-Germain en faux neuf, c'est-à-dire qu'il était face au but et non pas comme ailier. C'est Roland Courbis, à l'époque, qui l'avait placé dans cette position. Là, il profite aussi de la structure d'équipe et de ce que font les autres autour pour le mettre dans des conditions très favorables, parce qu'il met des beaux buts, mais il y a aussi des ballons où c'est des caviars. Je ne dis pas qu'il n'est pas placé là où il faut, mais c'est aussi l'animation offensive globale de l'équipe qui lui permet également de stater. Bah maintenant, si c'est un joueur de classe mondiale, bah moi je l'attends sur le reste du parcours.
Vous savez, Annie,
face aux meilleures équipes.
Il a travaillé, d'après ce qu'on a entendu au campus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi à 27 ans il fait ça? Mais il a changé ses appuis. Vous savez, quand il approche du but, il a ses petits pas, ses appuis ont changé. Et son corps, la position de son corps est un peu plus penchée vers l'avant, ce qui fait qu'il rentre mieux dans le ballon. Alors qu'avant, ça partait. Quand votre corps est en arrière, le ballon part vers le haut.
Il a dû attendre 27 ans pour savoir.
Alors
ça,
c'est bizarre, étonnant, vous allez me dire, mais parce que bah, en fait, c'était pas son logiciel. Il y a des, vous savez, il y a des gens, Haaland, Mbappé, Inès avec le but, il faut absolument marquer.
On l'avait peut-être cantonné aussi dans un rôle qui était tu débordes sur la droite
et
tu.
C'était pas honteux, c'est un créateur d'espace, c'est un créateur de jeu.
Voilà, c'est les tirs qu'il faisait avant, c'était des tirs en fin de course. Les tirs en fin de course, soit on s'appelle Robben, elle est toujours au fond parce que Robben, c'est Robben, mais pour les autres, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je trouve Luis Enrique modeste et humble dans son intervention, parce qu'il a beaucoup fait. C'est lui qui l'a mis en condition.
Mais sans doute.
Pour lui dire.
Sans doute. On se souvient qu'on disait que Vinicius s'était enfin mis à marquer grâce.
Pareil.
Et Benzema surtout grâce à Zidane. Mais parce que Zidane lui avait dit à un moment. Et Luis Enrique, il le connaît depuis longtemps. Il devait imaginer que ça serait possible.
Il a dit qu'il était amoureux de lui depuis Barcelone.
Si Dembélé.
Il était amoureux de lui depuis Barcelone.
Ah, oui, si Dembélé avait des doutes, Luis Enrique n'avait pas de doute pour lui. Il pensait pour lui. Donc, évidemment, là, quand s'appelle le puzzle est en train de se constituer, un faux neuf, oui, Paris peut jouer avec un faux neuf, c'est le cas. Et surtout, il y a toute l'équipe qui travaille pour lui. Mais ça, le travail, quand s'appelle le travail collectif, le travail de l'équipe, ça, c'était les étapes d'avant, en début de saison. Ça a commencé l'année dernière. Et donc, là, le puzzle est en train de se constituer.
Ouais, mais il y a de sacrées trouvailles. Mettre Doué titulaire à 19 ans. Si je te dis à 6 mois, c'est un ancien Rennais qui a 19 ans, qui va être titulaire en Ligue des Champions.
Rappelez-vous.
Contre City, contre Salzbourg, contre Stuttgart, contre Brest.
Mais alors, le pauvre vrai neuf, qui s'appelle Gonçalo Ramos.
Je vais dans ton sens.
Mais Annie, il n'a pas le niveau.
C'est un accompagnateur.
C'est pas un mauvais joueur, mais il n'a pas le niveau.
Je vais dans ton
style de jeu.
On lui reprochait à Luis Enrique de ne pas faire progresser les joueurs. Dembélé, Zaïre Emery, Neves, Barcola.
Doué,
ça fait beaucoup.
Même Hakimi, quoi.
Vitinha,
c'est un joueur confirmé.
Vitinha, c'est pas le même qu'avec Christophe Galtier. Ouais.
Après, Donnarumma,
il fait progresser ses joueurs.
Énormément.
Il faudrait qu'il fasse progresser Donnarumma, mais je crois que ça, on part de plus loin.
Non, je pense qu'ils vont prendre Chevalier.
Ah, Donnarumma.
Je pense qu'ils vont, pour progresser, faire brosser.
Ils vont partir en croisade avec Chevalier en Europe. Quoi.
En tout cas, tous ces matchs.
Il y a encore un jeune Mouané.
Oui, bon, on met un peu d'esprit dans cette émission, ça en change l'autre.
On part en croisade, Nabil, mais on a l'habitude. En tout cas, tous ces matchs retour, ça sera mercredi prochain. Et soyez surtout à l'écoute de RFI parce qu'il y aura une soirée spéciale Ligue des Champions. Mais on aura le temps de vous en reparler. On va aller vers les autres matchs. Mais avant, écoutons Voodoo Game, Colico. Donc, nous allons aborder les autres affiches de ces barrages. Allez. La rencontre de Lisbonne mettait face à face deux équipes dans une mauvaise passe, un peu, on peut dire. Hein. Le Sporting du Portugal, toujours premier au classement, là-bas, au Portugal, mais désespérément orphelin de son entraîneur, Ruben Amorim. Je ne sais pas s'il regrette, mais bon, nous, on regrette pour lui, en tout cas.
Les deux équipes vont mal, hein. Manchester United et Sporting.
Ouais, exactement. C'est changement de décor. En tout cas, il recevait le BVB, les jaunes et noirs de Dortmund, qui sont à la peine, eux, en Bundesliga. Ouais. Et avec un nouvel entraîneur sur leur banc, Niko Kovac, qu'on avait connu en France, à Monaco, qu'on a connu au Bayern de Munich. Et bien maintenant, il est à Dortmund et il a remporté une première victoire avec son équipe, même une nette victoire, un 3-0. Écoutez donc.
Schlotterbeck nimmt Julian Brandt mit und der findet Ciro Gyarassi. Ja, und Gyarassi macht Sachen, die ein Gyarassi macht. 10. Champions League-Treffer. Wunderbare Flanke von Brandt und noch besser vollendet durch Ciro Gyarassi.
C'est une période très difficile en Bundesliga. Mais ouais, aujourd'hui, je suis content, pas que pour le but, mais pour la prestation collective. Je pense qu'on a fait un très bon match. On a dominé cette équipe, même si au début c'était un peu dur, ils ont touché le montant, mais après je pense qu'on a quand même dominé la rencontre et ouais, c'était un très beau match aujourd'hui. Ouais, je suis content, il y a la victoire, j'ai marqué, donc c'est très bien.
Bon, il a raison d'être content. Le voilà meilleur buteur de la Ligue des Champions devant des buteurs stars comme Lewandowski, comme Vinicius, Mbappé, Dembélé, Griezmann. Nabil, Ciro Gyarassi, est-ce que ça vous surprend? Justement, dans une équipe qui tourne pas rond, vraisemblablement, et il est le meilleur buteur en Ligue des Champions.
Bah, c'est extraordinaire, c'est significatif, et ça en dit long sur la qualité de son garçon et son éclosion tardive, même si c'est un garçon qui s'était fait connaître dans les catégories jeunes. Moi, je m'en souviens, il était passé par Auxerre, Laval. Amiens également en Ligue 2. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours. Qui a construit son histoire, qui n'a pas été en haut de l'affiche tout de suite. À Rennes, ça ne s'est pas bien passé, notamment avec Bruno Genesio, étonnamment, voire très mal passé. Ensuite, il avait eu aussi une expérience en Allemagne du côté de Cologne. Il était revenu en France, il est reparti en Bundesliga, un championnat qui lui correspond, et on lui faisait un procès d'intention. Vous savez, c'est le grand truc en France, la jurisprudence Anthony Modeste. C'est-à-dire un attaquant globalement moyen qui met 20 buts en Bundesliga, ça veut dire que la Bundesliga, c'est facile, c'est les portes du saloon. Alors que marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le football. Lewandowski, Kane, Kane faisait des stats en Angleterre, il fait les mêmes stats en Allemagne. Donc ça veut dire que voilà, c'est la qualité du joueur également qui prédomine. Et là où c'est impressionnant, je trouve, c'est d'être passé de Stuttgart à Dortmund, continuer à marquer, mais pas seulement en Bundesliga, en Ligue des Champions. Et pour moi, le fait de stater en Ligue des Champions, ça règle la question de savoir quel est le niveau de ce joueur-là et à quel niveau on le situe. Et je pense que la prochaine fois, peut-être, et c'est ce que j'espère, et je lâcherai la balle avec ça, on finira peut-être par le mettre dans l'équipe type de la CAF, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a quelques semaines de ça, dans le 11 de la CAF, il avait fini sur le podium des trois meilleurs joueurs africains de la saison. On avait trouvé moyen, alors je sais bien qu'on fait des petits arrangements pour satisfaire tout le monde, de ne pas le mettre dans le 11 des meilleurs joueurs africains, alors que le garçon s'était déplacé, je crois, à Marrakech pour assister à la cérémonie. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de ce Serhou Guirassy, qui vraiment réalise des choses fantastiques.
Ouais. Chérif, qu'est-ce que vous ajouteriez sur ce joueur du BVB?
Bah, qui fait un bon début de saison, mais c'est mystérieux. Je regarde Dortmund. Ils ont encore perdu, mais ils ont pas mal de cases.
Mais oui, ils sont très loin.
Ils ont des bons joueurs sur le côté. Alors je pense qu'il y a Julian Brandt qui a pas fait un bon début de saison. Or c'est vraiment.
D'ailleurs, il met un beau but.
Ouais. Mais justement, il est en train de revenir. Il est en train de revenir.
Et Adeyemi aussi qu'on avait
perdu. Adeyemi qui a pas été. Ils ont pas été tous bons au même moment. Alors hier, comme je le souhaitais.
Alors rappelons-lui, ils étaient finalistes de cette Ligue des Champions. C'était peut-être aussi l'après compliqué. Ouais,
mais alors, ils ont complètement raté leur début de saison. Ça m'ennuie parce qu'il y a Sahin qui est parti, l'entraîneur. Mm-hmm. Donc après, il a fallu digérer aussi le départ de Terzic. J'ai pas bien compris, mais enfin bon. Il y a Kovac qui arrive. Pour moi, c'est un bon choix. Et non, Guirassy, on le trouvait, il participait au jeu. Alors, je suis d'accord avec Nabil. Il n'y a pas que les buts, il participe au jeu aussi. Ouais, c'est ça.
Il avait été blessé au moment de la CAN, malheureusement. Et ça avait été.
C'est avec la Guinée que pour l'instant, son histoire est un peu contrariée. Il ne sera pas la prochaine CAN.
Ce qui est fort, Annie, c'est qu'il réussit tout ça dans un Dortmund malade. Quoi. C'est-à-dire que quand autour de vous, il n'y a pas beaucoup de talent ou pas beaucoup de confiance. Pardon.
Confiance surtout.
C'est très compliqué de surnager. Et lui, quand même, depuis le début de saison, parce que c'est pas que hier soir.
C'est une passe décisive en plus. Ouais, hier. Donc, c'est non seulement le but et une passe décisive. Complet,
Il les porte un peu quand même. Parce que s'ils en sont encore là, c'est un peu grâce à lui. Parce que c'est toujours pareil. Dortmund va arriver en huitième de finale et c'est pareil que le Real. Ça sera peut-être plus la même équipe parce que c'est l'ancien finaliste.
S'ils sont en train de se remettre dans le sens de la route, va falloir aller les jouer.
Moi, j'aimerais pas tomber sur Dortmund.
Il y a de la qualité. Il y a un joueur que j'adore à Dortmund. Il y a Ben Sebaini, l'Algérien, mais ça c'est Potecker, il n'était pas là, mais c'est Schlotterberg que j'ai vu l'année dernière contre le Paris Saint-Germain, le défenseur central gaucher. Je trouve que c'est un super joueur.
Julian Brandt,
c'est lui qui avait ouvert pour Fulcruc sur le premier but.
Peut-être qu'ils vont revenir, c'était peut-être le déclic grâce à Guirassy.
Peut-être qu'ils peuvent être très bons en Ligue des Champions et pas faire un grand championnat. Ça arrive à
souvent, ça va être dur.
Comme Brest et comme d'autres.
Après, il faudra voir la suite du tableau.
Brest va remonter en Ligue 1, je vous
le dis. C'est vrai.
La suite du tableau de Dortmund, je ne sais pas contre qui ils vont jouer derrière.
Alors il y a eu cette rencontre donc où ça nous semble difficile pour le Sporting de remonter 3 buts et de ne pas en encaisser.
S'ils remontent les 3 buts.
Non, là, ils le feront pas.
Non, on va en entendre parler.
On verra ça.
Là, on pourra parler de remontada.
Oui, voilà.
Et puis, il y avait la Juventus qui s'en est sortie en battant le PSV Eindhoven dans son stade à Turin sur le score de 2-1. Les Bianconeri se sentent-ils déjà à l'abri Au match retour, le PSV, ils sont premier ex-aequo de leur championnat. Ouais. Il y a l'Ajax qui est devant. Et il n'y a qu'un but d'avance. Ouais, est-ce qu'ils sont très sereins, les Bianconeri, là, après ce match aller
Vous avez dit le mot serein. Non, la Juve n'est jamais sereine.
Oui,
jamais.
Surtout ces temps-ci.
Jamais. Donc, d'où la série incroyable de matchs nuls. C'est une équipe qui est jeune, qui n'a pas de leader. Qui avait Colomani, un 9.
Il y a Colomani quand même. Il y a Colomani.
Bah, Colomani, tu m'enlèves de la bouche. Si Colomani s'impose aussi rapidement, c'est parce qu'il y a le flop Vlahovic, un joueur que tout le monde adore.
Il doit changer de club, Vlahovic.
Il faut dire ce qui est. C'est un échec. Donc après, tout le reste. C'est plutôt jeune, il y a des joueurs qui
sont partis. Mais dites-moi, Eindhoven, est-ce qu'ils peuvent les piéger là-bas à Eindhoven,
Eindhoven est une équipe redoutable, il n'y a qu'un but
Peter
de retard.
Peter
Bosz
toujours.
Peter Bosz, oui. Donc il y a Noah Lang, il y a Strandtel.
Ils sont champions sortants des Pays-Bas.
Comment ?
Ils sont champions sortants des Pays-Bas.
Oui, champions en titre. Moi, personnellement... Je mettrais plus une petite pièce sur le PSV que sur la Juventus.
Ah oui. Mais de toute façon, c'est le barrage le plus indécis.
Parce que d'abord, c'est une équipe au niveau du projet de jeu, il est beaucoup plus abouti que celui de la Juve. Le Juve, il y a des trous d'air un peu partout en défense, en attaque. Il y a ça va, ça vient. Non, mais il suffit que Colomwani débarque pour qu'il transfigure cette équipe de la Juventus.
Non, mais la Juve.
Il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais là-bas, Eindhoven dans leur stade.
Dans leur stade, et puis même au niveau du fond de jeu, et en plus, le 1-1, ils le tiennent pendant longtemps. Non, moi, je pense qu'au niveau de l'expression collective, voire même au niveau des individualités, le PSV est au-dessus. Maintenant, s'ils se laissent impressionner par un grand nom, c'est la Juventus...
Quel grand nom ? Il n'y a pas de grand nom dans l'équipe.
Non, il n'y a pas de grand nom, justement, mais il y a des équipes...
Le grand nom, la Juve.
Il y a des équipes qui se laissent piéger par le soi-disant prestige.
C'est quand même le PSV Eindhoven, c'est pas Brest en Europe, c'est-à-dire c'est une culture européenne. Annie, honnêtement, la Juve... C'est méconnaissable.
Ah bah.
Non, mais je veux bien, ils vont peut-être aller voyager loin sur un.
Non, mais c'est McKinney, numéro 10.
Ça peut être l'histoire d'un tournoi, mais il n'y a plus de grands joueurs italiens, il n'y a quasiment plus de joueurs italiens. Ouais. On dirait une équipe de mercenaires. Ailleurs. On dirait une équipe de mercenaires loin de ce qu'a fait la réussite de l'histoire de la Juve.
C'est une équipe qui n'a plus les moyens d'avant. Hein.
Franchement.
Comme pas mal de clubs italiens.
Aujourd'hui, par exemple, on vous demande citez-moi le 11 du Real, vous le faites. Citez-moi le 11 du Bayern, vous le faites. Citez-moi le 11 de Manchester City, vous le faites. Citez-moi le 11 du Barça, vous le faites. Moi, j'en discutais hier avec un collègue, on regardait le match, je lui disais tiens, avant le match, t'es capable de me citer le 11 de la Juve, alors qu'il y a quelques années. Dans les années 2000 et tout, il n'y avait aucun souci. Hein.
Ouais, moi je le connais parce que je le suis. Ouais.
Non, mais
il
n'y a pas globalement grand public. Il n'y a pas
de grand public. En 2017,
qui est capable aujourd'hui de nous donner comme ça, pour des passionnés de foot, directement le 11 de la Juve.
Impossible.
L'Inter, tu peux le donner. Milan, tu peux t'en approcher. La Juve, c'est une équipe qui est devenue.
On connaît l'entraîneur. Parce qu'il est
non, c'est pas ça. C'est que c'est tous les clubs italiens, ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient avant. Ils ont dû réduire la voilure. Thiago Motta, c'est peut-être pas non plus le.
Il donne plus d'argent à la Serie A qu'au championnat de France.
Ouais, mais écoute, il n'y a plus les moyens que Fiat donnait avant à la Juve. Mais c'est pareil dans tous les autres clubs italiens. Avant, la Juve était première. Ils avaient les meilleurs.
C'est le joueur le plus payé en Italie.
Mais c'est un échec.
C'est 12 millions d'euros.
Mais c'est un échec.
12 millions d'euros par an, c'est 1 million d'euros par mois. Et c'est le plus gros salaire du championnat italien ne joue pas.
Et justement, la Juve avant se trompait rarement sur le recrutement, notamment les attaquants. Là, tout.
Après, c'est un bon
joueur. Di Gregorio, qui est un bon gardien, mais.
Non, mais c'est le problème de la Juve ces derniers temps. C'est une bonne équipe, mais.
Voilà, c'est une bonne équipe.
Et puis en plus, elle impressionne plus.
Non, mais qui a envie d'aller jouer à la Juve aujourd'hui ?
Bon, après, ça reste
quand même.
Est-ce qu'il avait le choix ?
Ça reste un nom quand même. Et
il veut rester.
Ils font penser un peu au Milan AC qui a eu un trou d'air pendant 10 ans. Vous savez, après avoir gagné.
C'était pareil, il y avait moins de trucs.
Le jour où le Milan AC, là, j'ai compris que ça n'allait plus du tout. Et là, c'est un peu pareil pour la Juve. Le jour où ils avaient recruté Walter Birsa, qui était un joueur honnête du championnat de France à Auxerre, quand ils ont commencé à faire des recrutements de ce type-là, j'ai vu qu'ils avaient baissé de gamme. Et la Juve, sans manquer de respect, par exemple, je ne veux pas manquer de respect parce que c'est un grand nom du football, mais Timothée Weah, quand je vois que la Juve le recrute.
En plus, il joue défenseur.
Timothée Weah, je l'ai vu à Lille, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais pas beaucoup plus. Ouais. C'est un gars qui n'est pas programmé pour être à la Juve.
Kefren Thuram, je l'aime beaucoup, pas non plus. Non, mais.
Nous verrons tout ça la semaine prochaine. Et ce soir, il y a des matchs encore de Ligue des Champions. Deuxième partie, donc rendez-vous demain pour le bilan de ces barrages allés. À demain.